19. Après avoir renvoyé Frida dans sa chambre avec ses jetons et la menace d'annuler toutes les promesses qu'elle parlait à quiconque de ce qui s'était passé dans le bureau de Mme Sixby, Stackhouse appela le service informatique. Andy Fellows était revenu du village pour remplacer Felicia Richardson. Stackhouse lui expliqua ce qu'il voulait et demanda s'il était possible de l'obtenir sans alerter qui que ce soit. Fellows répondit que c'était possible, mais il avait besoin de quelques minutes. « Pas plus », dit-il, et il raccrocha. Il se servit de sa radio pour joindre Rafe Pullman et John Walsh, ces deux agents de sécurité qui se trouvaient à proximité. « Est-ce que vous ne devriez pas plutôt envoyer un de nos amis policiers là-bas, à la gare ?» lui demanda Mme Sixby, une fois l'échange terminé. En effet, deux membres de la police de Denison Riverbend servaient d'informateurs à l'Institut, soit 20% de l'effectif. Ne serait-ce pas plus rapide ? Plus rapide peut-être, mais moins sûr. Je ne veux pas que ce merdier s'ébrute davantage, à moins que cela devienne absolument nécessaire. Mais s'il a pris un train, il peut se trouver n'importe où. Nous ne sommes même pas certains qu'il ait atteint la gare. Cette fille nous a peut-être baratinés. Je ne crois pas. Vous étiez certaine que Dixon n'avait pas menti. C'était exact et gênant, mais elle tint bon. La gravité de la situation l'imposait. Vous avez raison, Trevor. Toutefois, s'il était resté dans une ville de cette taille, les gens l'auraient repéré depuis longtemps. Pas forcément. C'est un gamin intelligent. Il a pu se cacher quelque part. Le train reste l'hypothèse la plus sérieuse, et vous le savez. Le téléphone sonna de nouveau. Tous deux se jetèrent dessus. Stackhouse l'emporta. « Oui, Andy, ça y est ? Parfait, je vous écoute. » Il se saisit d'un bloc sur lequel il nota quelque chose rapidement. Madame Sixby se pencha par-dessus son épaule pour lire. 4297, 10h. 16, 14h30. 77, 17h. Il entoura 4297, 10h, demanda quelle était la destination et inscrivit « Porte, Ports, Stur ». À quelle heure ce train devait-il arriver à Stourbridge ? Il nota 16-17h sur le bloc. Madame Sixby regardait ses indications d'un air consterné. Elle savait ce que pensait Trevor. Le garçon aura voulu aller le plus loin possible avant de descendre du train, en supposant qu'il soit monté à bord. À Stourbridge, donc. Et même si le train avait du retard, il était arrivé depuis au moins 5h. « Merci, Andy », dit Stackhouse. « Stourbridge se trouve dans l'ouest du Massachusetts, hein ?» Il écouta la réponse en hochant la tête. « Ok. Donc c'est au bord de l'autoroute. Mais ça reste une petite escale, peut-être une correspondance. Vous pouvez essayer de savoir si ce train ou une partie continue sa route ensuite ? Après un changement de locomotive, par exemple ?» Il écouta. « Non, un simple pressentiment. S'il a voyagé clandestinement à bord de ce train, peut-être que Stourbridge ne lui semblait pas assez loin pour qu'il se sente en sécurité. Il voulait peut-être continuer à fuir, c'est ce que j'aurais fait à sa place. Renseignez-vous et rappelez-moi le plus vite possible. » Il raccrocha. Andy a consulté le site de la gare. Aucun problème. Incroyable, non ? On trouve tout sur Internet de nos jours. Sauf nous, souligna Mme Sixby. Pour le moment. Alors, et maintenant ? On attend Rafe et John. Ce qu'ils firent. L'heure du crime sonna. Une demi-heure plus tard, très précisément, le téléphone posé sur le bureau de la directrice retentit. Cette fois, elle fut la plus rapide. Elle aboya son nom dans l'appareil et écouta ce qu'on lui disait en hochant la tête. « Très bien. Compris. Continuez jusqu'à la gare. Au dépôt. Je ne sais pas comment on appelle ça. Et voyez si quelqu'un y est encore. Non. Très bien. Merci. » Elle raccrocha et se tourna vers Stackhouse. « C'était vos forces de sécurité. » Parole prononcée avec une pointe de sarcasme, étant donné que ce soir-là, ces forces de sécurité se composaient de deux hommes d'une cinquantaine d'années qui n'étaient pas dans une forme physique éblouissante. Frida Brown a dit vrai. Ils ont trouvé les marches, des empreintes de chaussures, et même deux empreintes de doigts ensanglantées au milieu de l'escalier. Rafe pense qu'Alice s'est arrêtée à cet endroit pour se reposer ou pour refaire ses lacets. Il possède des lampes électriques, mais John affirme qu'ils trouveront sans doute d'autres indices quand il fera jour. Après une pause, elle ajouta « Ils ont inspecté la gare. Il n'y a personne, pas même un veilleur de nuit. » Malgré la climatisation qui maintenait une agréable température de 22 degrés dans le bureau, la sueur perlait sur le front de Stackhouse. «
Ça sent mauvais, Julia. Mais on peut peut-être encore étouffer l'affaire sans utiliser ça.
Il montra le tiroir du bas qui renfermait le téléphone zéro.
Évidemment, s'il est allé trouver les flics de Sturbridge, la situation devient beaucoup plus délicate. Il a eu 5 heures pour le faire.
Même s'il est descendu dans cette ville, il n'a pas forcément contacté la police.
Qu'est-ce qui l'en empêche? Il ne sait pas qu'il est recherché pour le meurtre de ses parents, puisqu'il ne sait même pas qu'ils sont morts.
Même s'il l'ignore, il s'en doute. Il est très intelligent, Trevor. Il ne faut pas l'oublier. À sa place, vous savez quelle est la première chose que je ferais si je descendais du train à Sturbridge, Massachusetts, à... Elle consulta le bloc. À 16 ou 17 heures? Je foncerai à la bibliothèque et je me connecterai à Internet pour savoir ce qui s'est passé chez moi. Cette fois, ils regardèrent l'un et l'autre le tiroir du bas fermé à clé.
Ok, dit Stackhouse. Il faut élargir le champ d'action. Ça ne me plaît pas, mais on n'a pas le choix. Voyons qui on peut contacter dans les environs de Sturbridge. On saura si quelqu'un l'a aperçu.
Madame Sixby s'assit à son bureau pour enclencher l'opération, mais son téléphone sonna au moment où elle allait s'en saisir. Elle décrocha, écouta 2 secondes, et étendit l'appareil au chef de la sécurité. C'était Andy Fellows. Il n'avait pas chômé. Il y avait une équipe de nuit à la gare de Sturbridge. Et quand Fellows s'était fait passer pour un gérant de stock de chez Downies Frey à la recherche d'un chargement de homards vivants qui se serait égaré, le chef de gare, de garde à cette heure-ci, s'était fait un plaisir de l'aider. Non, aucun homard vivant n'avait été déchargé à Sturbridge. Et oui, la majeure partie du train 4297 poursuivait sa route, tracté par une locomotive beaucoup plus puissante. Il devenait le train 9956 à destination de Richmond, Wilmington, Dupré, Brunswick, Tampa et pour finir, Miami. Stackhouse s'empressa de noter tout ça avant de se renseigner sur les 2 villes qu'il ne connaissait pas.
Dupré se trouve en Caroline du Sud, précisa Fellows. C'est un arrêt en pleine cambrousse, 2 pelés et 3 tondus. Mais c'est un lieu de correspondance pour des trains venant de l'Ouest. Il y a quelques entrepôts. Seule raison de vivre de ce bled, j'imagine. Brunswick est en Géorgie, c'est beaucoup plus grand, ils doivent charger des grosses quantités de produits frais et de fruits de mer.
Stackhouse raccrocha et se tourna vers Madame Sixby une fois de plus.
Supposons.
Supposons, répéta la directrice. Un mot qui nous fait passer pour des idiots, vous et moi.
Fermez-la.
Personne d'autre n'aurait pu dire une chose pareille à Madame Sixby, surtout sur ce ton. Mais personne d'autre non plus n'avait le droit de l'appeler par son prénom. Stackhouse se mit à faire les 100 pas. Son crâne brillait dans la lumière. Elle se demanda si parfois il le cirait.
« Combien de personnes avons-nous à l'Institut ?» demanda-t-il. « Je vais vous le dire. Une 40aine d'employés ici à l'avant et 2 douzaines à l'arrière, sans compter Ekel et Jekyll. Pas plus. Pour des raisons de sécurité, il le faut. Mais ce soir, ça ne nous aide pas. Il y a dans ce tiroir un téléphone qui nous permettrait de recevoir des renforts de toutes sortes. Mais si on l'utilise, nos vies s'en trouveront changées. Pas en bien.
Si on utilise ce téléphone, on pourrait même ne plus avoir de vie, rétorqua Madame Sixby. Stackhouse ignora cette remarque.
On dispose d'un réseau d'informateurs dans tout le pays. Un réseau efficace composé de policiers, de médecins, d'employés d'hôtels, de journalistes travaillant pour de modestes hebdomadaires, de retraités qui ont énormément de temps libre pour consulter les sites Internet. On a également à notre disposition 2 équipes d'extraction et 1 avion Challenger qui peut les conduire quasiment n'importe où rapidement. Et surtout, on a nos cerveaux, Julia. Nos cerveaux. Ellis est un joueur d'échecs. Les intendants le voyaient tout le temps jouer contre Wilhelm. Et là, c'est une partie grandeur nature et un jeu auquel il n'a jamais joué. Alors, supposons.
Soit.
On envoie un informateur chez les flics de Sturbridge, avec la même histoire qu'à Presqu'Île. Il leur raconte qu'il croit avoir vu Ellis. On a intérêt à faire de même à Portland et à Portsmouth, même si je ne crois pas un seul instant qu'il soit descendu si vite du train. Je mise sur Sturbridge, mais je pense que notre homme fera chou blanc là aussi.
Est-ce que vous ne prenez pas vos désirs pour des réalités?
Je ne fais que ça. Mais si ce gamin réfléchit aussi bien qu'il court, c'est logique.
Quand le train 4297 est devenu le train 9956, il est resté à bord. Voilà votre supposition.
Oui. Le 9956 s'arrête à Richmond sur le coup de 2 heures du matin. Faut envoyer quelqu'un sur place, plusieurs personnes même, pour surveiller ce train. Idem à Wilmington, où il doit arriver entre 5 et 6 heures. Mais vous savez quoi? Je pense qu'il ne descendra dans aucune de ces deux gares.
Vous pensez qu'il va voyager jusqu'au terminus?
Trevor, se dit-elle, vous grimpez de plus en plus haut dans l'arbre des suppositions, et chaque branche est plus cassante que la précédente. Mais qu'y avait-il d'autre à faire, maintenant que le garçon avait disparu? Si elle était contrainte d'utiliser le téléphone zéro, on lui expliquerait qu'elle aurait dû se préparer à une telle éventualité.
Facile à dire. Qui aurait pu imaginer qu'un enfant de 12 ans serait suffisamment désespéré pour se couper le lobe de l'oreille afin de se débarrasser du traceur? Ou qu'une femme de ménage déciderait de l'aider et de l'encourager? On lui expliquerait ensuite que le personnel de l'Institut était devenu paresseux, qu'il se reposait sur ses lauriers.
Et que répondre à cela?
Jusqu'au terminus.
Elle revint à l'instant présent et pria Stackhouse de répéter.
Je disais qu'il n'irait pas nécessairement jusqu'au terminus.
Un gamin de cette intelligence saura qu'on va envoyer des gens là-bas, si on a deviné qu'il avait pris le train.
Je ne pense pas non plus qu'il descendra dans une zone urbaine. Sûrement pas à Richmond, en tout cas. Une ville inconnue en pleine nuit.
Wilmington, c'est possible. C'est plus petit et il fera jour quand le 9956 y arrivera. Mais je penche plutôt pour un des arrêts en pleine cambrousse.
Dupré en Caroline du Sud ou Brunswick en Géorgie. En supposant qu'il se trouve bien à bord de ce train.
Peut-être qu'il ne savait même pas où allait ce train quand il est reparti de Stourbridge. Auquel cas, il se pourrait qu'il continue jusqu'au terminus. S'il voyage à bord d'un wagon de marchandises, il sait.
Madame Sixby s'aperçut qu'elle n'avait pas eu aussi peur depuis des années. Peut-être qu'elle n'avait jamais eu aussi peur. Toutes ces suppositions. Était-il possible d'enchaîner autant de raisonnements justes? Là encore, il n'avait rien d'autre. Alors, elle acquiesça.
S'il choisit de descendre en pleine campagne, on pourrait envoyer une équipe d'extraction pour le récupérer.
Ah, Trevor, ce serait l'idéal.
Deux équipes. Opal et Rouge Rubis. C'est Rouge Rubis qui l'a amené ici, d'ailleurs. Une jolie façon de boucler la boucle, vous ne trouvez pas?
Madame Sixby soupira.
J'aimerais qu'on puisse être certain qu'il est monté dans ce train.
Je ne peux pas l'affirmer à 100%, mais j'en suis quasiment sûr. Il faudra s'en contenter.
Stackhouse lui sourit.
Décrochez votre téléphone pour réveiller quelques personnes.
Commencez par Richmond. Au niveau national, on donne à ces hommes et à ces femmes...
Combien?
$1 million par an?
Pour une fois, certains mériteront leur argent.
Une demi-heure plus tard, Madame Sixby raccrocha.
S'il est resté à Stourbridge, il doit se cacher dans une conduite d'eau, une maison abandonnée ou un endroit de ce genre. Si la police l'avait repéré, ils en parleraient sur leur radio. Des gens à nous attendent le train à Richmond et à Wilmington, avec une histoire toute prête.
Oui, j'ai entendu.
Joli travail, Julia.
Elle accueillit ses félicitations d'un geste là.
Toute personne qui l'aperçoit touchera une jolie prime. Encore plus généreuse, une véritable manne, s'ils réussissent à lui mettre le grappin dessus pour le conduire dans un lieu sûr où on viendra le récupérer. C'est peu probable à Richmond, où les deux personnes qu'on a envoyées sont des citoyens lambda. En revanche, un des types de Wilmington est policier. Prions pour que ça se passe là-bas.
Et concernant Dupré et Brunswick?
On a deux personnes à Brunswick. Le pasteur d'une église méthodiste située à proximité et son épouse. Une seule à Dupré, mais le type en question vit sur place. C'est le propriétaire de l'unique motel de la ville.